Donc, bienvenue à ceux qui sont là pour cette conférence rencontre, cette rencontre avec Julien Delval, qui est l'illustrateur de l'affiche du festival cette année, comme vous le savez. Je pense qu'on est suffisamment peu nombreux pour qu'on puisse à un moment vous laisser la possibilité de poser des questions si vous en avez. Mais avant ça, on va essayer de faire un petit peu plus connaissance avec Julien. Et c'est moi qu'on a chargé de ce rôle, puisque pour lui éviter le long monologue sur sa vie, son œuvre et ses idées. Alors, on va commencer de façon très très classique. Julien, comment est-ce qu'on en arrive à devenir illustrateur? Comment est-ce que dans votre vie s'inscrit ce choix de carrière? Par quoi vous avez commencé?
Alors, j'ai commencé par déjà mes parents qui étaient auteurs jeunesse. Ma mère écrivait chez Bayard Presse, enfin elle écrit toujours chez Bayard Presse.
Et elle écrit quoi ?
Elle a écrit beaucoup de J'aime lire, beaucoup de belles histoires. Elle a fait récemment une série de fantasy jeunesse qui s'appelle Les Dragons de Nalzara. Elle a écrit des romans fantastiques pour la jeunesse toujours. Et là, elle fait une nouvelle série de fantastiques avec des gamins qui vont chasser des cauchemars dans les cauchemars, voilà. Et mon père faisait de la poésie, écrivait aussi pour la jeunesse. Et donc, ils avaient aussi beaucoup d'amis artistes, sculpteurs, des peintres. Donc, j'ai baigné dans les histoires, dans l'imaginaire et dans l'art. Donc, j'ai tout de suite dessiné et voilà, je savais que je voulais faire ça. Donc, ça s'est décidé assez rapidement. Ça n'a pas été un hasard.
Avec du coup pas d'objection parentale sur le sujet.
Ouais, au contraire, ouais, ouais. Encouragé. Puis j'étais à l'école, j'étais un bon élève, donc aucun prof ne m'a embêté pour dessiner dans les marges de mes cahiers. Et ensuite j'ai rencontré mon prof d'art plastique, m'a dit voilà, il faudrait que tu fasses un DUC d'art plastique pour éviter le gros concours des arts décoratifs. Donc j'ai fait un DUC d'art plastique à Paris 1. Où j'ai fait des rencontres très intéressantes, on y reviendra ensuite. Et puis j'ai fait une année de prépa, parce que j'avais raté l'école des Gobelins d'animation. J'ai fait une année de prépa où j'ai là beaucoup appris, parce qu'on faisait que du dessin, de la peinture, pendant vraiment un an à fond. Et après j'ai fait les arts décoratifs à Paris, trois années aux arts décoratifs. Et là j'ai fait un peu de graphisme et de l'animation, du dessin animé en fait. Mais j'ai pas eu mon diplôme parce que j'avais déjà du travail, donc j'étais objecteur de conscience et après j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à travailler parce que à la fac, au DUC d'art plastique, j'ai rencontré deux personnes importantes dans ma carrière, essentielle. Dans ma suite essentielle, en tout cas qui ont aiguillé un chemin. Il y a eu Cyril Dogent qui travaillait avec Casus Belli à l'époque, magazine de jeux de rôle. Et qui venait d'être embauché par une toute jeune boîte d'édition qui s'appelait Multisim, boîte de jeux de rôle, qui venait de lancer Néphilim, et il cherchait un illustrateur. Et donc, voilà, je me suis présenté avec
Cyril. Science.
Et voilà, un petit jeu, quoi, machin. Bon. Et je me suis présenté, ils m'ont embauché, enfin, ils m'ont payé des illustrations, donc j'ai commencé à prendre mon métier d'illustrateur là, quoi, avec des petits dessins payés par Multisim. Multisim a gonflé, et voilà, quoi. Après, Mnemos.
Et vous avez grandi un peu en même temps qu'eux.
Et j'ai appris mon métier en même temps qu'eux apprenaient leur métier d'éditeur. Et j'ai rencontré des auteurs qui apprenaient aussi leur métier d'auteur, avec des fois tous les auteurs historiques de chez Mnemos, quoi. Voilà.
Donc ça veut dire un peu d'illustration sur des couves de Robin Hobb. Peut-être pas chez Mnemos, Robin Hobb. Hein.
Si, Robin Hobb, il y a eu un moment, ouais, qui est vendien. Mais c'est venu un peu après. C'était
Grimbert.
Tout de suite Pierre Grimbert, ouais, Secret
Gamel.
G. Il y a eu du Gamel, oui.
Je ne sais pas si vous avez été voir l'illustration de l'exposition de Julien à la Maison du Bailly. Elle est là jusqu'à ce soir, donc vous avez cette possibilité-là. Ouais. J'ai été un petit peu frappée, moi, de voir qu'il y avait une espèce de continuité. Il y a des illustrateurs qui changent beaucoup d'univers. Pour vous, il y a une vraie cohérence d'univers autour d'un certain genre fantasy, fantastique. Est-ce que c'est quelque chose que, du coup, quand vous travaillez pour vous, puisqu'on peut voir dans cette exposition qu'il y a des travaux qui sont issus, on en a un petit peu parlé, de votre imagination, de celle de votre compagne, Est-ce que c'est difficile de sortir d'un certain style?
Il faut dire qu'à la galerie, j'ai quand même fait une sélection de choses qui aussi me plaisent et correspondent à ce que je fais aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'autres choses que j'ai faites qui ne sont pas dans cet univers-là. Donc j'ai essayé de faire peut-être une cohérence, et en effet peut-être un chemin qui m'a amené quelles ont été les étapes qui font qu'aujourd'hui je fais des peintures de fantasy plutôt dans des mondes antiques, plutôt dans des mondes mythologiques et baignés dans la nature de paysages. Donc il y a eu plusieurs étapes dans ma carrière où j'ai pu faire des illustrations qui correspondent à cet univers. Mais j'ai fait des jeux de société avec des jeux de pirates, j'ai fait des trucs sur le roi Arthur, j'ai fait des trucs de cow-boy, voilà. Il y a eu beaucoup d'autres choses en illustration.
C'est cet univers-là qui est votre préférence quand même.
Oui, voilà. Puis, mais il est venu, est-ce que je le savais? Je ne savais pas si je le savais, quoi. C'est peut-être petit à petit, je savais que ça, ça m'intéressait, que je voulais creuser ça, mais voilà, il y a eu des étapes. Agon, le jeu de rôle Agon, a été très intéressant pour moi parce que c'était un monde que j'aimais beaucoup, cette renaissance mythologique située pas au Moyen-Âge, pas après, mais voilà, c'est...
On a tous été beaucoup marqués par les univers de Mathieu Gabory.
Voilà. Ouais.
Et j'imagine à quel point, quand on est illustrateur.
Et je sais que sur Agon, j'ai pu apporter une vision personnelle. Voilà. Et maintenant, je continue dans ça. Je ne sais pas où ça va continuer. Mais,
Est-ce que, pour parler plus précisément de l'affiche de cette édition des Imaginales, est-ce que, quand on vous propose de faire l'affiche, est-ce que les organisateurs vous donnent des pistes? Est-ce qu'ils vous laissent libre? Est-ce que le thème vous a inspiré cette affiche en particulier ou c'est loin de ce qui se met au cœur de votre inspiration? Comment ça s'est passé?
Alors, c'était assez simple pour l'affiche du festival parce que Stéphanie et Stéphane choisissent un artiste et le laissent libre de trouver son sujet. Ils donnent juste le thème de l'année. Donc là, c'était destination, donc voyage.
C'est drôle ce que vous dites sur destination égale voyage.
Pour moi, c'était tout de suite voyage. Parce que je savais que illustrer destination, c'est pas un thème d'illustration destination. Voyage, c'en est un. Donc voilà, j'ai tout de suite été plutôt sur ce thème-là. Mais dans le voyage, il y a le départ, l'arrivée, enfin le chemin, etc. Et moi, je voulais représenter un paysage, en tout cas, c'est sûr. Il y a toujours une contrainte dans les affiches, c'est représenter le château d'Épinal. Donc moi, je l'ai mis assez petit dans mon image. Mais il représente une des destinations, finalement, du bateau. Et... Donc je voulais prendre mes références de peinture classique, les ruines, la végétation, le ciel, très important.
Ça s'inspire de quel type de alors illustrateur pour les béotiens comme moi
C'est alors, la peinture classique que tout de suite j'ai vu pour ce thème, ça a été le port au soleil levant ou couchant, je ne sais plus, c'est un tableau du Lorrain.
Moi, j'ai pensé à Watteau, mais c'est peut-être...
Watteau, il y a l'embarquement pour Cythère, ouais, qui pourrait faire partie
de
l'inspiration. Ouais. Donc, cette idée de perspective vers une lumière. Vous connaissez sûrement ce tableau, mais il faudrait le montrer pour que ça vous fasse tilt. Et j'aime beaucoup aussi ce que fait Canaletto quand il dessine des ruines fantastiques, voilà, parce qu'il faisait Voilà, ces ruines ocre avec de la végétation qui vient monter dessus.
Et est-ce que c'est naturel pour un illustrateur de l'imaginaire de faire des bateaux sans eau?
On en voit quand même pas mal dans le bateau qui flotte. Depuis
il y a presque un petit côté Miyazaki.
Oui, depuis Sankukai, il y a des bateaux qui volent
depuis
pas mal.
Albator.
Ouais, depuis Albator, voilà, c'est ça. Le bateau qui vole est quand même assez... Et puis ça apportait la touche d'imaginaire, la touche de fantastique dont l'affiche avait besoin pour pas que ce soit qu'une peinture classique. Fallait qu'il y ait ces bateaux volants pour qu'on sache qu'on parle d'un monde imaginaire. Ouais.
Et pour vous, c'est quel type de bateau? Parce qu'on a eu des discussions un peu chaleureuses et presque violentes sur c'est un drakkar, c'en est pas un.
Je voulais qu'il y ait une histoire de... On avait décidé qu'il y avait un... Enfin, moi, j'avais décidé qu'il fallait un élément graphique supplémentaire Et ça allait être la figure de proue qu'on voit un peu sur le côté, une figure de proue chimérique qui rajoutait encore de l'imaginaire. Bah, ces bateaux, pour moi, c'était un mélange de bateaux différents. Donc, en effet, du drakkar, mais aussi des bateaux antiques,
La
galère romaine ou grecque. Et voilà, ouais, c'est un mélange de plusieurs choses.
Okay.
Ouais, ouais.
Et on en arrive aujourd'hui dans votre carrière à un moment où en plus des illustrations de couverture et des illustrations qu'on peut voir en exposition, vous travaillez plus particulièrement avec la Galerie Maguen à Paris, qui est une galerie vraiment très, très en avant pour tous les illustrateurs de l'imaginaire. Comment ça se passe, cette collaboration? Qu'est-ce que ça apporte à votre travail et à votre carrière? Comment vous pouvez nous en parler?
Alors, la Galerie Maguen, je l'ai rencontrée suite à une exposition d'originaux de romans. J'avais envoyé le carton d'invitation, puis un jour j'ai rencontré Olivier Souillet de la Galerie Maguen, qui s'occupe vraiment plus de l'illustration. C'est lui qui a développé tout le pôle illustration. Il m'a proposé de lui montrer des grandes choses, de faire des œuvres spécialement pour lui, donc en très grand format des choses, parce qu'en illustration de romans, je travaillais qu'en A3. Et là, il m'a dit, fais-moi des choses très grandes. Donc je lui ai proposé 4 images que j'ai mis quelques mois à préparer. Je lui ai apporté à la galerie et il a tout de suite été emballé et il m'a dit qu'on commençait une collaboration. Donc déjà, ce qui était fort, c'était on avait un contrat uniquement de confiance, c'est-à-dire que lui me commande des images, mais il me laisse complètement libre de les réaliser. Et lui me rémunère quand j'ai besoin d'argent, quelque part. Enfin, c'est vraiment un travail de mécénat qu'ils opèrent. Ils suivent des auteurs et ils les aident à réaliser les meilleures peintures possibles. Donc j'ai du temps, j'ai un confort pour faire ces images-là. Et la qualité s'en ressent, et la galerie le sait, et a déjà vendu des œuvres que j'ai présentées chez eux. Donc, c'est vraiment, ça change ma vie d'illustrateur. Je passe à un travail de plus de peintre-illustrateur maintenant. Ouais.
Et est-ce qu'on peut prévoir un gros livre soutenu par la Galerie Maguen, un peu comme ça a été le cas pour ça y est, son nom va m'échapper, alors que pour Didier Graffet.
Didier, que je connais depuis longtemps, qui travaille aussi avec la Galerie Maguen. Ils font souvent des catalogues quand ils font des expositions, mais après ils ont un petit souci après de diffusion. Et moi, je prévois un gros livre de rétrospective sur tout mon travail récent et ancien, mais qui correspond en effet à ce travail d'aujourd'hui. Mais on va préparer plutôt un participatif, parce que ça va être un beau projet qualitatif au niveau de l'édition.
Et parce que ça marche bien dans nos milieux.
Et parce que le participatif, ouais, pour ce genre d'objet fonctionne.
Ça a très bien marché pour Marc Simonetti.
Par exemple, moi je travaille avec en graphiste Franck Achard, ouais, qui était le graphiste de chez Multisim, et qui par exemple a fait Gotland, qu'on peut trouver ici, oui, avec Nicolas Fructus. Voilà. Ouais. Donc c'est lui qui était graphiste de ce projet-là et qui l'a mené jusqu'à terme. Donc il maîtrise ce format-là, et donc voilà, on travaille là-dessus, et on voudrait aussi rajouter une bonne partie d'entretien. Donc on a préparé des réflexions avec d'autres auteurs, avec des collectionneurs, avec des galeristes, pour parler un peu justement de tout ça, de toute cette nouvelle génération qui a la chance de faire de la peinture en galerie aujourd'hui, en peinture traditionnelle, parce qu'il y a, voilà, c'est des gens qui continuent...
Parce qu'on veut dire qu'il y a 20 ans, le mécénat, c'était pas vraiment la chose qui permettait aux artistes de vivre. Aux artistes comme vous, j'entends, aux illustrateurs. Bon, il y a 20 ans, il y a moins d'illustrations sur les romans, certainement, mais est-ce que les littératures de l'imaginaire, qui sont souvent critiquées pour leur couverture, qui peuvent sembler un peu kitsch ou un peu, peu importe, il y a des jugements de valeur sur les couvertures qui les opposent à la littérature blanche, qui s'appelle blanche souvent parce qu'il n'y a rien dessus. Est-ce qu'on n'est pas victime de ce mépris un peu, en même temps victime et en même temps on profite du renouveau de la littérature de l'imaginaire et du fait que l'illustration devient aussi importante que le contenu?
Alors,
pour vendre en tout cas.
Je pense qu'il y a deux publics. Il y a un public comme vous, plus amateur vraiment, qui connaît ces mondes-là et qui est friand de livres, d'images. Et il y a un deuxième public de collectionneurs qui, eux, sont des gens qui ont beaucoup de moyens et qui viennent plutôt de la collection de bandes dessinées au départ et qui se tournent vers ces grandes images, mais qui n'ont pas forcément une connaissance forte du monde de l'imaginaire. Mais après, ça peut changer. Il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver pour collectionner ce genre de choses. Ouais.
Alors justement, parlons avant de... Vous venez de me lancer sur une piste, mais avant d'y aller, pour les couvertures, vous êtes... moi, j'ai pu faire la différence entre vos travaux de couverture, ceux qui sont, que vous avez choisis, en tout cas, pour l'exposition, et vos travaux personnels. Est-ce que, pour les couvertures, vous êtes dans la lecture complète des romans, dans la lecture d'extraits? Comment ça se passe? Comment vous faites le lien entre votre illustration et le contenu d'un livre?
Alors, c'est très variable selon les éditeurs, en fait. Hein. Y a des éditeurs qui ont une idée très précise de l'image qu'ils veulent. Donc, ils me disent, je veux le héros en position très cadrée, etc. Donc là, j'ai une contrainte forte, mais liberté dans la contrainte forte. Après, il y a ceux qui font lire tout le roman. Et donc là, je peux essayer de trouver une image qui m'est plus...
C'est plus long.
On peut trouver une image plus personnelle, mais c'est aussi un piège parce que l'éditeur, s'il fait lire le roman et qu'il demande une image, c'est que lui-même ne sait pas trop ce qu'il veut montrer. Donc il attend une proposition de notre part et souvent il rebondit dessus. Soit ça lui plaît tout de suite, tant mieux, soit il rebondit dessus et il fait faire autre chose parce que ça lui a donné une autre idée finalement. Donc ça peut être un piège de lire le roman, mais c'est quand même plus sympa pour le fond, pour vraiment aussi trouver dans la manière de le faire. Dans le traité, d'être proche aussi du style, de langage, tout ça.
Est-ce qu'on une autre façon de travailler ou
ceux qui on voit juste un passage, voilà, on illustre un passage du livre. Voilà.
D'accord. Est-ce que on en a parlé aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, par moment, en tant qu'illustrateur, d'être celui qui c'est un peu provocateur ce que je dis, mais d'être celui qui réduit l'imagination. C'est-à-dire que vous proposez une façon de voir un personnage, une façon de voir un univers, et du coup, le lecteur, avant même d'avoir plongé dans l'écriture, a cette image qui lui... On en a parlé à propos de Tolkien et de la question de l'adaptation, mais est-ce que vous avez ce sentiment parfois de limiter l'imagination du lecteur?
C'est vrai que moi, je serais contre représenter le héros, en tout cas, parce que je vais imposer une vision qui n'est pas forcément celle que aura le lecteur. Mais c'est vrai que là, l'éditeur demande souvent un personnage, donc on ne peut pas proposer ça. Mais c'est vrai que ça peut... moi, l'idée, c'est de... En tout cas, de faire une couverture graphiquement qui soit belle, pour que les gens soient heureux d'acheter. Mais des fois, ça correspond, l'intérieur ne correspond pas forcément. Quoi. Par exemple, L'Ange du Chaos de Michel Robert... Je sais que la couverture a fait beaucoup vendre le livre, ouais. Mais le héros n'est absolument pas comme ça dans
c'est
le
clair,
livre.
C'est clair.
Donc voilà, l'image était impactante visuellement, mais le héros était décalé. Donc du coup, pourquoi pas, quoi, parce que c'était une image fantasmée du héros et plus peut-être son psychique qui ressortait dans l'image plutôt que sa vraie description, matérielle. Quoi.
Et du coup, est-ce qu'on vous a déjà reproché d'induire le lecteur en erreur
ou Non, j'ai jamais eu cette critique-là, parce que les gens savent comment qu'on fait une image et qu'ils ont le droit de penser autre chose. Quoi. Enfin,
ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cet éditeur qui, pendant des années, a fait appel au même illustrateur pour illustrer toutes les couvertures.
Tu penses à Sudmac.
Parce que moi, j'étais une énorme fan de Sudmac il y a longtemps, puisque je suis assez vieille. Donc, ça fait partie des choses qui m'ont fait arrêter d'aimer Sudmac. Ouais. Vraiment, de l'impression de le voir partout sur les couvertures, quel que soit le roman, quelle que soit la nature du genre littéraire, il était partout et c'était parfois tellement pas approprié, quoi.
C'est vrai que c'était pas approprié à de nombreux moments. Et en même temps, il apportait peut-être juste, en effet, une vraie vision personnelle. Donc, du coup, il n'imposait pas forcément du coup, un imaginaire.
Mais il n'avait pas, enfin, il n'a pas un univers à ce point vaste. Enfin, je veux dire,
oui, c'est vrai que c'était toujours la même chose.
C'est ça. Ouais.
C'était un peu toujours la même chose. Mais moi, je suis arrivé pile au moment où, en effet, Bénédicte Lombardo de chez Pocket a dit stop, Sweet Mac, on va faire travailler d'autres illustrateurs. Et j'ai fait partie des illustrateurs qui ont remplacé Sweet Mac. Et voilà, merci Bénédicte.
et du coup, moi, j'ai un peu le même problème arrive parfois en BD. Quand on a une couverture faite par un dessinateur et puis l'intérieur qui n'est pas du tout...
Alors ça, moi, je ne supporte pas.
C'est
insupportable. Parce qu'on est attiré par la couverture, on ouvre et ce n'est pas pareil à l'intérieur.
Oui.
Non.
Ouais. Et ça, vous... Alors, justement, donc, mon rebond de tout à l'heure, c'est la BD.
La BD, j'en ai fait une avec Jean-Paul Krasinski, qui est un scénariste et dessinateur de bande dessinée.
Et
c'est un très, 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 très bon auteur qui est décalé dans le monde de l'imaginaire, mais
oui,
un truc.
Oui.
Voilà,
il travaille avec Charlotte Bousquet sur un autre projet.
Ah, oui.
Ouais.
Et il travaillait avec Maya Mazorette aussi, qui était auteur.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Et donc, cette BD, c'était moi, j'ai surtout eu grand plaisir à travailler avec lui parce que c'est un vieux copain de la fac aussi, comme Cyril Dejean. Et lui est dessinateur, donc il m'avait fait le storyboard. Et c'est vrai qu'en bande dessinée, la narration est quand même quelque chose de différent de l'illustration. Donc savoir mener un récit en case. Voilà. Donc lui m'a fait un storyboard assez précis. Moi, j'avais plus qu'à dessiner et à peindre parce que c'est une bande dessinée en couleur directe. Donc j'ai eu grand plaisir à faire ces deux albums.
Pour ceux qui connaissent pas la couleur directe, la différence entre couleur directe.
C'est que beaucoup d'albums de bande dessinée sont faits. Par le dessinateur fait un ancrage au noir et ensuite un coloriste vient rajouter la couleur, ou bien c'est lui qui fait la couleur, mais il existe le noir et blanc et ensuite la couleur. Moi, mes planches sont directement de la peinture, comme Bilal, voilà, il y en a d'autres, hein, beaucoup, beaucoup d'autres.
Et donc, du coup, un univers qui vous a séduit et
oui,
on a
bien rigolé à faire ça. Et moi, maintenant, j'aimerais bien des choses. J'aimerais bien être auteur de ma prochaine bande dessinée.
Oui.
Même si là, j'ai peut-être un projet d'adaptation d'un grand classique.
Donc, à la fois scénariste et dessinateur.
Ouais, j'aimerais bien. Mais je sais que la narration de bande dessinée classique ne me convient pas. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose de plus poétique,
plus roman graphique peut-être.
Plus roman graphique, ouais. Ouais, c'est l'idée.
un peu sur la base de ce qu'on fait les moutons électriques avec Tout au milieu du monde, ou ça c'est vraiment...
Je ne connais pas, donc il faut que je m'enseigne.
Il y a un roman graphique qui s'appelle Tout au milieu du monde et qui est illustré par Melchior Ascaride, qui a gagné les Imaginales de l'illustration l'année dernière. Et qui, voilà, c'est très particulier, c'est très, très, très graphique.
D'accord. Des choses comme ça, inventer une narration qui me conviendrait. Ouais.
Bon. Et justement, est-ce que vous avez des dessinateurs, des illustrateurs qui sont vos sources d'inspiration en dehors de la peinture classique, ouais, qu'on a un peu évoquée, mais on peut y revenir. Quels sont les...
Non, c'est vrai que moi j'ai commencé par la BD. C'est vrai que les premières personnes qui m'ont donné envie de faire de l'imaginaire et de la bande dessinée sont des auteurs. C'est mon père qui avait une collection, une bonne, belle collection, et c'était les grands auteurs. Hein. C'est Bilal, hein. Le premier, c'est La Foire aux Immortels, qui a été le premier choc. Il y a Druillet avec Salambo, c'est vraiment une forte influence.
Et, Moebius, pas du tout.
Moebius, un peu moins, parce que j'ai découvert un peu après, et Tardi, le Démon des Glaces de Tardi et Adèle Blanc-Sec. Hein. Après toute la BD est venue, hein, en bloc, mais voilà, c'est ces trois-là, quoi, vraiment. Foire aux Immortels, Le Démon des Glaces et Salambo. Voilà, c'est les trois.
Et du coup, est-ce que vous êtes aussi inspiré par des choses plus éloignées de cet univers-là, comme les comics, comme les mangas, ou est-ce que c'est...
Je me tiens informé de tout ça. Je pense que ça m'influence indirectement. En fait, voilà, je pense qu'on est des éponges et que... Il ressort des choses à un moment ou à un autre. Il y a le cinéma, bien sûr. Il y a les artistes contemporains d'art abstrait, ça peut aussi. Voilà, il faut vraiment, faut tout absorber, quoi. C'est vraiment.
Ouais. Et comment on se met à se penser auteur, à se penser auteur qui écrit, quand jusqu'à présent on a plutôt juste illustré? Est-ce que c'est le même processus créatif? Est-ce qu'on va chercher aux mêmes endroits de son cerveau, ou est-ce que c'est vraiment différent de se laisser aller à dessiner, et que c'est pas le cas dans l'écriture, ou est-ce que c'est la même chose?
J'ai pas assez d'expérience en écriture, mais je trouve qu'en dessin, on peut se laisser aller à faire des gammes, à faire des petites choses. Mais l'écriture, j'ai fait de la musique et j'écrivais des chansons, par exemple. Et je sais que j'ai beaucoup aimé ça. Donc si j'écrivais, ce serait voilà.
Il y a des chansons qu'on connaît ou
Non, des choses connues. Enfin, on peut trouver sur Internet en cherchant bien quelques clips rigolos. Mais des textes courts, plutôt la poésie. Voilà, je pense que je n'ai pas la prétention d'écrire du roman ou de. Enfin, je pense pas que j'aurai la force. Déjà, écrire un scénario de BD, j'ai beaucoup d'idées, mais après, il faut les mettre en ordre. J'ai essayé de commencer à mettre en ordre, et puis je trouvais que je tombais dans quelque chose de trop classique, justement. Moi, je voulais. Moi, ce qui m'a fait venir aussi à la fantasy, c'est le morceau de William Scheller, Tohol. Tu vois, tu connais pas ?
Non.
C'est un espèce d'opéra, c'est un opéra de fantasy. Ouais. Et voilà, et ce que je veux.
J'aime bien William Scheller. Hein.
Ouais, et ben c'est, voilà, tu pourras écouter Tohol. Pour moi, c'était ça la fantasy, c'était cette espèce de lyrisme. Donc, je voudrais l'image, ça en fait partie, mais la musique, voilà. Donc, peut-être accompagner mon image par du lyrisme écrit, poétique, pour emmener quand même dans un univers qui peut avoir une certaine cohérence.
Et alors, au long des conférences avec des auteurs sur ces imaginales, est revenu souvent, et ça revient souvent quand on parle avec les auteurs, cette idée du « le personnage m'a surpris, a fait ce qu'il a voulu ». Est-ce que la même chose arrive avec le dessin ? Est-ce que tout d'un coup...
Oui, la main peut partir toute seule et on peut décider de garder ce qu'elle nous a produit. Ou voilà, c'est beaucoup du choix la peinture. On dépose les choses, on se laisse aller à un certain mouvement qui petit à petit qu'on a aussi incorporé comme une danse, comme voilà. Et on choisit de garder ça ou de ne pas garder ce hasard finalement. On maîtrise beaucoup de choses, mais faut laisser place aussi à la main qui a un geste et qui sera toujours plus beau que travailler longtemps quelque chose quoi. Donc il faut faire une grosse part de choix. Et ouais.
Alors on est du coup un peu rentré dans la technique. Vous vous servez vous nous avez expliqué que vous peignez beaucoup, mais est-ce que vous vous servez beaucoup du numérique ? Est-ce que vous dessinez sur tablette ? Est-ce que voilà.
Alors je travaille en traditionnel, mais je me sers quand même beaucoup de Photoshop, hein, quand même. Mes crayonnés sont sur papier, mais comme je travaille des bouts de mon image, je les scanne, je les détourne, et ensuite je les remonte sur un fichier Photoshop pour pouvoir les agrandir, les diminuer, les déplacer dans l'image. Ensuite, avec ça, je peux retravailler des fois la palette uniquement en niveau de gris pour avoir les masses de lumière. Et ensuite, quand j'ai eu mon crayonné, souvent je l'imprime sur un papier et je repeins directement par-dessus pour faire, comme on voit à la galerie, des recherches couleurs pour la peinture finale. Ensuite, je me resserre de l'ordinateur pour agrandir mon dessin pour le format final qui souvent est très grand. Et je réimprime mon crayonné en plusieurs bouts que je rescotche les uns aux autres, graffité derrière pour pouvoir transposer mon crayonné sur la toile ou le papier final. Okay. Et ensuite, je me resserre encore de l'ordinateur pour la dernière partie, qui est la partie du scan, de remonter l'image finale, et puis après, tout ce qui est la diffuser sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Quoi.
Vous vous filmez en train de, sur les
j'ai,
processus
j'ai pas, le, j'ai pas les moyens techniques de le faire, mais je pense que les gens sont friands de ça et que peut-être je trouverai le moyen un jour de faire une petite vidéo de voilà, un petit
une
tutoriel.
Ouais, complète,
oui, ouais. Peut-être, oui.
Et qu'est-ce que vous pensez du succès des illustrateurs ou, je dirais, des blogueurs BD ou de ce type de dessin très rapide, très, très dans la vie quotidienne très, est-ce que vous vous sentez capable de ça, de ce type
pour moi, c'est vraiment un autre
un
monde.
Autre univers,
c'est des gens qui ont des choses à dire et qui utilisent l'image pour en plus le souligner ou le rendre plus attrayant, plus accessible.
Mais dans la poésie, ça pourrait être un
blog
poétique. Oui,
ça pourrait être un blog poétique avec des petits... Moi, je fais beaucoup de carnets de voyage aussi, par exemple.
Oui,
c'est vrai que ça peut être des choses comme ça aussi, hein, rapidement faites, ou des crobards. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas.
Et le, Moi, j'ai été assez fascinée par, par l'illustrateur de Jean-Luc Marcastel qui, en salon, croque les gens en portrait triste. Mm-hmm. Est-ce que ça, ça fait partie des choses que vous êtes en mesure de faire aussi?
Je pense que je serai en mesure de faire des portraits.
Est-ce qu'on est VRP multicarte quand on est illustrateur?
Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y en a qui sont spécialisés. Moi, je pourrais faire du portrait, mais c'est vrai que ça ne me vient pas comme ça. Quoi. C'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je passe pas de temps là-dessus. Je pourrais faire des portraits. J'en fais des fois, j'ai des commandes de personnes qui veulent une petite illustration, surtout pour le jeu de société. Ils veulent leur portrait en personnage par exemple, des aventuriers du rail que j'ai illustré. Voilà, ça peut exister. Ou des gens, pour des petites cartes de fantasy, ils veulent se retrouver en chevalier. J'en ai fait quelques-unes avec, d'après des photos, je refaisais le portrait de ces gens-là en costume d'époque.
Et est-ce qu'on a parlé sur l'affiche qu'on voit là, d'ailleurs, de tout ce que ça pouvait évoquer, est-ce que du coup, puisque vous vous intéressez à la poésie, est-ce que le symbolisme est quelque chose qui vous parle particulièrement? Est-ce que vous entruffez vos dessins ou pas? Est-ce qu'on peut...
Ça se fait de manière inconsciente, ouais, c'est le terme que je cherchais. Ouais, c'est ça. C'est inconscient. On me dit, tiens, là, il y a du symbolisme, et je fais, je l'ai pas voulu. C'est pas.
Est-ce que quelqu'un a une question pour Julien? Non.
La caricature, j'en ai fait quand j'étais tout gamin. Ouais, je me souviens que mon père regardait Apostrophe et j'attendais le ciné-club qui était juste après Apostrophe et donc je caricaturais les gens qui étaient autour de Pivot. Ouais, j'en ai fait quand j'étais plutôt gamin. Maintenant, j'en fais moins, quoi. J'en fais plus. Ouais. Sauf dans la BD où je fais des personnages assez caricaturales en bande dessinée, par contre. Ouais. C'est vrai qu'en fantastique, la caricature est plus dans pas forcément sur le visage, mais sur la manière de se comporter, quoi. Moi, je fais très peu de personnages dans mes illustrations de peinture maintenant, donc voilà, je m'intéresse plus en ce moment au paysage, enfin au décor, etc. Mais en bande dessinée, ouais, la caricature.
Quelqu'un d'autre a une question?
J'ai vu là-bas.
Oui. Oh là là.
Vous avez parlé d'adaptation en BD, mais vous allez adapter quoi en BD ?
En ce moment, je me penche sur un Jules Verne. Je dirais pas lequel parce que c'est pas encore prêt, mais parce que en ce moment, signer un projet de bande dessinée est un peu compliqué et s'appuyer sur un truc commercial rassure les éditeurs. Et puis c'est un roman qui correspondrait à ce que j'ai envie de faire. Donc pour l'instant, je suis là-dessus, mais je ne sais pas du tout si ça va aboutir ou pas. Quoi. Voilà, ce ne serait pas steampunk, ce serait plus fantastique. Ouais.
Arrêtez les dialogues quand je suis partie. Pardon. Une question ici?
Je m'excuse, je n'étais pas là au début de la conférence, donc
pas
si ça
soucis.
A été déjà répondu que moi. J'ai vu l'exposition avec vos crayonnés et je me posais la question un peu technique. Est-ce que vous gommez en
fait? Je gomme très peu, mais j'utilise la gomme mie-de-pain, qui est une gomme qui peut atténuer le trait, parce que j'aime bien qu'il y ait toujours une trace, ça donne toujours de la vie au dessin. Donc j'atténue si ça ne me plaît pas et je reviens après par-dessus. Mais je gomme pas, sauf vraiment si c'est complètement raté, autant prendre une autre feuille. Mais la gomme mie-de-pain, j'utilise beaucoup la gomme mie-de-pain, ouais. Qui est une gomme, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est toute molle et qui en fait colle le crayon sur elle-même. Et au bout d'un moment, elle devient toute dégueulasse, toute grise. Et voilà, elle prend le crayon sur elle. Ouais. Elle ne fait pas de chure, elle fait pas de chure de gomme, ce qui est très pratique aussi.
Donc du coup, en fait, c'est quasiment des premiers jets, vos crayonnés?
C'est souvent des premiers jets, mais je peux avoir plusieurs premiers jets, quoi. Et je choisis le meilleur. Après, je peux retravailler ce premier jet pour le nettoyer, quoi. Mais le tout premier jet est en général en tout petit, dans des carnets, au bic, qui sont vraiment les illustrations en masse. Et ensuite, il y a un deuxième crayonné plus poussé où je travaille plus avec le crayon et je corrige à la gomme mie-de-pain. Voilà.
Moi, j'ai une question sur l'affiche. Alors, d'ordinaire, les affiches des Imaginales sont souvent très colorées, chatoyantes, etc. Et la vôtre est plutôt sombre. Pourquoi vous avez choisi ce parti pris ?
Ça vient du fait que j'aime la peinture classique et que je voulais rester dans ces teintes-là que j'aime beaucoup, moi, les terres et une unité de couleur. C'est vrai qu'elle peut du coup être moins chaleureuse, moins festive, mais après c'est moi qui souhaite faire des images avec juste une couleur principale, quoi, juste une teinte générale.
Et est-ce qu'on est dans le chiaroscuro, enfin le clair obscur de la peinture classique?
Non, parce que il y aurait eu plus d'obscur, quoi. Là, il y a quand même pas mal de clair, quoi. Ouais. C'est pas.
On vous entend pas, monsieur.
Pour l'affiche, avant de commencer, pour avoir mon idée, c'est voyage. Donc voyage, tout de suite, j'ai pensé à port et bateau. Je fais port bateau tout de suite. Et puis le bateau s'est mis à voler assez rapidement. Voilà.
Est-ce que l'année dernière, j'ai fait la même rencontre avec Hélène Arbeit, qui est l'illustratrice de l'affiche de l'année dernière. Est-ce que y a chez vous, parce que chez elle, il y avait beaucoup d'éléments dans l'affiche, alors que la vôtre est un peu plus épurée, on va dire. Est-ce que quand même, on a quelque chose à dire quand on est illustrateur, même quand on fait quelque chose de très... Est-ce qu'il y a un message profond? Parce que Hélène avait utilisé Ruby Wright, qui est l'histoire d'une petite fille. Une petite fille noire américaine qui allait à l'école avec des Texas Rangers parce qu'elle était la première à aller au lycée dans un lycée de blancs. Elle a utilisé les natives américaines puisque le thème de l'année dernière, le pays invité, c'était les États-Unis. Est-ce que pour vous aussi, il y a quelque chose que vous dites dans vos œuvres en général et dans vos illustrations? Qu'on ne voit pas forcément ou qui est mystère, qui ne parle qu'à vous, que je dirais.
Qu'il n'y a que moi qui ai une clé pour quelque chose.
Dans l'art, c'est toujours la question, ouais, hein, la clé. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y aurait dedans que...
Mais c'est pas sûr. Hein, c'est une...
Si tout l'ensemble, comme je te dis, le voyage, Canaletto, les ruines, leurs ruines me parlent beaucoup. Mm.
Mais du coup, moi, je me suis posé la question, et je l'avais écrit, je fais, est-ce que votre illustration dit qu'on arrive à destination ou pas? Est-ce qu'on y arrive?
Je crois qu'on est plutôt en train de partir dans mon illustration.
D'accord. Ouais,
on est en route.
On est en
flottaison, voilà. On est en train de rêver peut-être, uh-huh. et on va peut-être ne pas se réveiller ou voilà. C'est un endroit, c'est vrai qu'en général, c'est des lieux où j'ai envie d'être, où j'ai envie de me promener. Donc je suis un promeneur, je suis un contemplatif. Je veux une image où je peux rester devant. Je veux faire des images, comme on dit, où on peut, qui résistent à la vue.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on reste devant, on ne l'est pas vu en deux minutes. Et il faut qu'on puisse continuer à l'observer et que les choses soient...
Que les choses soient mouvantes ou qu'on...
Oui, qu'on découvre un végétaux caché dans les plantes, qu'il y ait des petits personnages quand même qui font des actions quotidiennes à l'intérieur. Il y a des gens qui sont en train de charger quelque chose, des tonneaux, des je ne sais pas, faire une livraison. Hein, c'est peut-être aussi une image de vie quotidienne pour ces gens-là. Hein.
La livraison est arrivée à destination. Voilà,
livraison à destination. C'est pour moi une promenade.
Donc en tant que contemplatif, vous espérez que les ceux qui regardent vos dessins seront aussi des contemplatifs.
C'est ça, ouais. Ouais. Et qu'ils y trouvent en général. C'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que pas mal de gens y voient quelque chose qui leur rappelle quelque chose d'autre et que même moi je ne connais pas, mais qui les touche personnellement par une autre expérience qu'ils ont eue. Ça m'intéresse. Ouais.
Et avec qui est-ce qu'on pourrait penser dans ce genre de travail? Est-ce que puisqu'il y a des romanciers à quatre mains, est-ce que vous êtes dans la capacité ou dans l'envie d'illustrer à quatre mains? Est-ce que vous êtes...
Ça, c'est déjà arrivé sur le salon Geekopolis, où j'ai fait des... c'est un peu comme les fresques qui sont faites ici, sauf que c'est des fresques où vraiment tout le monde intervient sur tout le monde. Donc j'ai fait ça avec Didier Graffet et Manchu, par exemple. Et on a des styles qui peuvent se interagir les uns avec les autres.
C'est marrant parce que quand je pense à Manchu et à votre travail, je
oui,
fais pas,
mais
je fais pas le lien.
Voilà.
Mais
donc on a réussi à faire des images, ou bien avec Yoz qui travaille pour Magic, pour les cartes Magic. Uh-huh. On a déjà fait trois images comme ça. Moi, j'ai fait une image Batman avec Manchu et Yoz, justement. Uh-huh. Donc moi, là, c'est moi qui suis sorti de mon monde. Mais on est arrivé à faire des images qui se tiennent sans qu'on voit vraiment qui a fait quoi.
Et est-ce que comme illustrateur qui est amené à dédicacer maintenant un petit peu vos œuvres, est-ce qu'il y a des choses que vous aimez dessiner? Est-ce que c'est facile de dédicacer rapidement quand on est illustrateur?
Moi, j'ai cette chance de vraiment dessiner rapidement et j'aime tout dessiner. Donc, la dédicace n'est pas une épreuve pour moi.
Ouais. Donc, on peut vous demander une licorne à paillettes.
Voilà, tout à fait. Oui, complètement.
Et, c'est une idée pour tous ceux qui vont aller se faire dédicacer.
Et à une époque, quand j'ai commencé, j'avais cette peur de faire des images... trop crayonné, trop rapidement faite, pas clean comme font pas mal de dessinateurs, une belle dédicace, un dessin qui ressemble vraiment à un dessin fini. Je me libère plus et les gens sont aussi contents qu'une image finie.
Et ça évite peut-être la spéculation sur, comme ça se voit beaucoup dans le milieu de la BD et du dessin. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique d'ailleurs sur les
gens qui revendent des dédicaces, etc. Moi, je crois pas que ça m'est arrivé, mais c'est vrai que je pense que c'est un travail de faire des images comme ça et qu'on le fait pour les gens, pour leur plaisir, et que si les gens revendent derrière, il faut trouver le moyen de contrôler ça, mais je sais pas quel moyen on peut faire à part de tout fliquer, et je suis pas non plus pour qu'on fasse payer les gens les dédicaces, donc faut trouver.
C'est difficile de trouver une solution.
Ouais, faut en parler avec Bruno Bellamy, je crois qu'il a bien pensé au sujet. Ouais. Qui aura plus de réponses sur ce sujet-là.
Bon, eh bien voilà, nous arrivons un petit peu au terme de cette rencontre. Merci Julien de nous avoir renseigné sur votre travail. Et puis, n'hésitez pas à aller prendre un petit carnet et vous le faire dédicacer, puisque ça ne lui demande pas beaucoup de travail. Vous avez pu le voir. Merci beaucoup Julien.
Voilà, je serai à la galerie du Bailly aussi pour la fin de l'expo, en fin de journée, si vous voulez encore passer, ceux qui ne sont pas passés. Et en effet, il y a des petits carnets qu'on peut acheter ici, parce que là-bas, il n'y en a plus beaucoup, mais on peut l'acheter ici, l'emmener là-bas. Voilà. Et je suis encore dispo aussi là, maintenant, tout de suite, s'il y en a qui veulent discuter maintenant, tranquillement.
Merci à vous.
Merci.